RTS Info, Christine Mattei.
Madrid, Oslo, Dublin, trois pays européens reconnaissent conjointement aujourd'hui un État de Palestine malgré les mises en garde du gouvernement israélien. L'Irlande et l'Espagne ont annoncé à leur tour, après la Norvège, la reconnaissance d'un État palestinien dès le 28 mai. D'après le décompte de l'autorité palestinienne, 142 pays parmi les 193 États membres de l'ONU ont jusqu'à présent fait part de leur reconnaissance d'un État palestinien. L'administration fédérale aura son propre cloud, un nuage souverain. Le Conseil fédéral demande un crédit de près de 250 millions de francs pour ce Swiss Government Cloud. En 2021, la Confédération avait choisi 5 géants d'Internet pour se fournir en service de nuages externes, 4 américains et le chinois Alibaba. L'attribution avait alors été critiquée. Depuis, des voix appelaient à la création d'un cloud souverain pour plus de sécurité. Ce sera donc le cas. La Confédération peut finalement publier une directive mise à jour sur le pesticide chlorothalonil. Le tribunal administratif fédéral a rejeté en grande partie un recours du groupe balois Syngenta. Syngenta qui avait déposé ce recours en 2020. Cette démarche empêchait la Confédération de désigner 4 métabolites du pesticide comme étant pertinents sur le plan toxicologique avec de possibles effets cancérigènes. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se réjouit de pouvoir donner désormais une consigne claire pour les distributeurs d'eau potable. Les députés fribourgeois ont accepté aujourd'hui une motion pour réviser la loi sur les bourses et les prêts d'études qui était en vigueur depuis 16 ans. La démarche permettra d'augmenter les forfaits. Les policiers alémaniques vont faire appel à l'intelligence artificielle pour s'exercer à interroger des enfants. Un projet pilote de ce type démarre cet automne pour une durée d'une année. Les chercheurs zurichois et lucernois ont développé un enfant virtuel pour s'exercer à des interrogatoires souvent difficiles et exigeants. Un candidat interdit de campagne par son propre parti, c'est peu fréquent. Et pourtant, la tête de liste controversée du parti d'extrême droite allemand AfD pour les élections européennes, Maximilian Kra, est interdit de meeting et d'événements de campagne. Ainsi, on a décidé ce matin sa formation qui le sanctionne pour une série de dérapages. Cette décision fait suite à l'annonce faite hier par le parti d'extrême droite français du Rassemblement National de mettre fin à sa coopération avec l'AfD au Parlement européen. La police italienne a démantelé un réseau criminel dirigé par le chef présumé de la mafia turque, Boris Boyun. 19 personnes, dont le boss présumé, ont été arrêtées en Italie, en Suisse, en Allemagne et en Turquie. La Confédération a participé à l'opération. Fedpol a confirmé son engagement. Les suspects sont accusés notamment d'être membres d'une association criminelle à visée terroriste. Le grand public est à la fête ce mercredi au Festival de Cannes avec le cinéma populaire français, une nouvelle adaptation du Comte de Monte-Cristo, le chef-d'œuvre de Dumas. L'acteur Pierre Niney reprend le rôle d'Edmond Dantès enfermé injustement au château d'If. Le film est l'un des plus gros budgets de l'année dans le cinéma français. En tennis, André Agassi sera le prochain capitaine de l'équipe monde de la Lever Cup, programmée à San Francisco l'an prochain. Il remplacera dès 2025 son compatriote John McEnroe. La météo, de larges éclaircies en plaine, quelques averses aussi, elles seront plus fréquentes dans l'après-midi, au thermomètre maximum 20 degrés.
Chacun pour tous, la minute de solidarité avec Jean-Marc Richard.
Besoin de vous au quotidien, vous le savez. Nous lançons des appels avec Chacun pour tous pour vous proposer de vous engager comme bénévole ou de nous aider à trouver du matériel pour des associations, des organisations non gouvernementales. Alors, aujourd'hui, cet appel s'adresse à ces organisations, ces associations, ces fondations, ces ONG qui travaillent pour les plus défavorisés ici en Suisse et dans le monde avec la patte humaine ou humanitaire ou humaniste. Nous avons besoin de vos projets. Renseignements sur rts.ch/chacun pour tous. N'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez envie de nous présenter un projet. 058 236 16 00 ou chacunpourtous@rts.ch.
Dis pourquoi ? L'émission qui répond aux grandes questions de l'humanité en toute modestie. Lucas Torrent.
Bonjour, et toute cette semaine, nous parlons du haschich, du cannabis. Pourquoi cette plante a accompagné l'humanité? D'une part, sa version chanvrière, chanvre, pour faire des voiles, pour faire des cordes, pour faire des habits. On l'entendait hier avec l'historienne Joé Dubus. C'était très important pour l'Europe du Moyen-Âge. Et puis d'une autre part, une substance qui a plus ou moins accompagné, en tout cas en Europe, l'humanité pour ses propriétés psychoactives, on va dire ça comme ça. Et en début de semaine, et vendredi, on va revenir avec une médecin pour voir du côté médical ce qui se passe. Mais on continue avec l'histoire. Aujourd'hui, on sera au 19e siècle avec Zoé Dubus et vous verrez, c'est assez intéressant quel est le lien entre un médecin, Baudelaire, du haschich. On verra tout ça aujourd'hui. C'est aussi une émission du mercredi. Donc il y aura Céline Auclin, il y aura une chronique sur une œuvre qui est inspirée par le haschich. Mais c'est aussi une émission du mercredi, et le mercredi, vous le savez, il y a une bascule. Il y a une bascule, c'est le milieu de la semaine. 3 jours sont passés qui ne seront plus. Les 19, 20 et 21 mai ne seront plus jamais là. Et 3 jours qui viennent, 23, 24, 25 mai, qui sont devant nous. C'est donc à la fois un deuil et à la fois une espérance. Et une espérance, ça peut être une angoisse. Et donc, toute l'équipe de Dis Pourquoi vous propose de passer ce cap douloureux du milieu de semaine en concomitance, ça ne veut rien dire, en lien avec le thème. En lien avec le thème étant le THC, on s'est dit quoi? Eh bien, John Hassell a réalisé, on peut dire que c'est de l'art, c'est une œuvre, il a réalisé un élément sonore qui va vous permettre d'expérimenter les effets du THC, mais uniquement par les oreilles, donc c'est totalement légal. Donc, c'est comme si vous allez fumer un joint, mais par le son, par l'ambiance, et ça va vous permettre de passer ou pas le milieu de cette semaine. Si vous avez un casque, mettez-le. C'est en stéréo que ça se prend toute sa puissance. Si vous avez pas de casque, mettez un peu plus fort. Nous embarquons. Bienvenue à toutes et à tous.
En parlant de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les enfants paraissent plus petits que les adultes.
Moi, je crois que quand vous êtes, il faisait beaucoup plus froid comme été. De toute façon, dans quelques années, on sera tous remplacés par les robots.
Celui qui se prend.
No.
Taylor Swift, un extrait du dernier album de la chanteuse, et ça s'appelait Fortnite sur RTS La Première. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h toute cette semaine. Notre thématique, le cannabis, le chanvre, le CBD, le THC, les fibres, cette plante. Intéressant quand même, comme des plantes peuvent avoir leur destin lié à l'humanité. On pense aussi au café, on pense au thé, on pense à plein de choses. Et comme aussi les substances, les drogues, eh bien, ont toute une histoire très différente les unes des autres. Si on compare l'alcool, par exemple, au cannabis. Nous sommes avec Zoé Dubus, historienne spécialisée dans l'histoire des psychotropes, et on continue de faire l'histoire du cannabis, du chanvre, en Europe. On sera notamment au 19e siècle, et au 078 206 73 32, il y a la question de la semaine. La question de la semaine, c'est: le cannabis et vous, est-ce que vos routes, ou le chanvre hein, aussi, on a vu qu'il y a des gens qui utilisent le chanvre comme corde, ce seraient les cordelettes les plus résistantes. Ça c'est la question. Mais la question plus spécifique d'aujourd'hui, c'est: quelle est votre drogue à vous? C'est une question un peu chou, hein. Ça peut être le chocolat, ça peut être la course à pied, ça peut être l'alcool de bois. C'est vous qui voyez, dites-nous ça au 078 206 73 32. Oui, c'est ça. Hier, on a notamment entendu ceci.
On est sûr, à partir de moins de 2500, on commence vraiment à trouver des traces archéologiques sûres de l'usage pour les propriétés psychotropes en Chine. Et à partir de moins de 1000, on a des textes écrits, cette fois, qui sont en Inde et qui présentent également le cannabis pour ses effets psychotropes.
Et par contre, hier, on n'a pas du tout entendu ça.
Et quand que tu vois,
Zoé Dubus, vous êtes historienne de la médecine, spécialiste dans l'histoire des psychotropes. On fait l'histoire du chanvre et du cannabis avec vous. Et petite parenthèse, vous êtes loin de l'Europe, vous faites un post-doc, c'est ça, dans une université qui me paraît extraordinairement exotique.
Oui, tout à fait. Donc, je fais un post-doc dans la province de Saskatchewan, et la ville dans laquelle je travaille, ça s'appelle Saskatoon. Donc, rien que dans le nom, c'est effectivement assez exotique. Je travaille sur les psychédéliques en particulier, et sur les femmes qui, dans les années 50 à 70, ont proposé des nouvelles techniques pour accompagner les patients à qui on administrait du LSD.
Mais donc ensemble, ce qu'on fait, c'est l'histoire du cannabis, du chanvre. Hier, on était au temps moderne, et le 19e siècle, il me semble, vous avez dit ce mot hier, orientalisme. Il y a une mode, on regarde du côté de la Chine, on regarde du côté du Japon, on aime les babioles qui viennent de là-bas, on aime les estampes japonaises, et là-dedans, il y a aussi le haschich.
Alors l'orientalisme, c'est aussi, ça concerne aussi le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en réalité. Donc en fait, quand on dit Orient pour les gens du XVIIIe siècle et même du XIXe siècle, ça considère l'ensemble des gens qui ne sont pas civilisés aux yeux des Occidentaux blancs. Et la redécouverte du cannabis en elle-même vient plutôt d'une nouvelle forme de colonisation et de Napoléon qui va essayer d'aller coloniser l'Égypte sans succès. Mais à l'occasion de cette campagne d'Égypte, les soldats, mais aussi les médecins, vont redécouvrir l'usage du cannabis, donc riche en THC, et vont le ramener en Europe.
Avec une volonté de l'utiliser médicalement, une volonté d'utiliser l'effet récréatif, entre guillemets, c'était quoi le but?
Alors les usages de psychotropes, ils sont toujours variés. C'est très difficile en fait de séparer spécifiquement l'usage récréatif de l'usage thérapeutique, en particulier à cette époque-là où cette distinction n'existe pas du tout en fait. Et donc une substance qui fait rire ou qui fait se sentir bien, c'est déjà une substance qui est thérapeutique. Mais effectivement, les médecins, en l'amenant en France notamment, vont essayer de l'utiliser notamment dans les asiles pour guérir les pathologies mentales. L'idée, c'est que le cannabis tel qu'il est utilisé à cette époque-là, il est mangé et donc produit des effets extrêmement puissants, des formes d'hallucination, de dépersonnalisation. L'idée, c'est que si on administre ce psychotrope très puissant à des patients qui sont délirants, par exemple, ou qui ont des hallucinations, on va pouvoir les guérir parce qu'ils vont se rendre compte de leur folie. c'est l'espérance des médecins de cette époque-là, qu'en produisant artificiellement le même type de symptômes chez des patients psychotiques, ils puissent être guéris. Et donc il y a un médecin qui s'appelle par exemple Jacques Moreau de Tours qui va beaucoup étudier en France l'usage du cannabis et qui demande également à ses équipes médicales, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, de consommer eux aussi du cannabis pour pouvoir se mettre pendant quelques heures à la place de leurs patients et avoir des effets extrêmement puissants qui leur permettent de mieux comprendre les malades et donc d'être plus empathiques envers eux.
Ça c'est courant au 19e pour les médecins, les chercheurs, de tester les substances ?
C'est très courant. Alors, l'usage de médicaments en général par les médecins, c'est quelque chose qui certainement a existé depuis les débuts de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on la connaît en Occident. Pour deux raisons. D'abord, parce que les médecins produisent les médicaments pour une personne donnée, donc c'est les médecins qui font les médicaments. Et donc il faut s'assurer à la fois que le médicament a bon goût, parce que sinon le patient ne va pas le prendre, et aussi qu'il n'a pas d'effet secondaire trop important. Donc les médecins ont cette habitude depuis des siècles, voire des millénaires, de consommer eux-mêmes les médicaments qu'ils veulent administrer à leurs patients. Et l'idée que pour les psychotropes ce soit une nécessité vient aussi de ce médecin qui s'appelle Moreau de Tours, qui explique que l'expérience psychotrope est ineffable, ce qui veut dire qu'on ne peut pas la retranscrire par des mots, et donc que pour en être expert, il faut absolument en avoir pris soi-même. Et Moreau de Tours va plus loin, il explique que c'est pas suffisant d'en prendre une seule fois, parce que cette expérience, elle est tellement dépendante de facteurs extra-pharmacologiques, par exemple l'état d'esprit de la personne à ce moment-là, les personnes avec qui elle se trouve, éventuellement ce qu'elle a mangé, la musique qu'elle écoute, le lieu, tout ça va influencer l'expérience. Donc Moreau de Tours explique qu'il faut en prendre de manière répétée. Et ça devient la norme en médecine à partir de ce moment-là.
J'ai tort de ne pas croire en toi, surtout ne m'en veux pas, je ne t'oublierai pas. J'ai tort de te jouer la comédie, je t'en supplie, crois-moi, je te pleure aujourd'hui. Je suis seul, mais je suis incapable de promener ma vie au long des heures qui courent. Je suis seul, mais je suis incapable de donner mon avis à ces gens qui m'entourent. J'ai tort de te faire du cinéma, de jouer le drôle de gars qui n'a besoin de personne. J'ai tort de te crier souvent, je t'en supplie, va-t'en, je t'aimais bien pourtant. Je suis seul, mais je suis incapable de promener ma vie au long des heures qui courent. Je suis seul, mais je suis incapable de donner mon avis à ces gens qui m'entourent. J'ai tort de te faire mon numéro, je savais qu'avec toi, il prendrait chaque fois. J'ai tort de t'avoir fait pleurer, mais je le reconnais, laisse-moi regretter. J'ai tort de te jouer la comédie, je t'en supplie, crois-moi, je te pleure aujourd'hui. J'ai tort de te faire mon numéro, je savais qu'avec toi, il prendrait chaque fois. J'ai tort de te jouer la comédie.
Christophe, avec le titre « J'ai eu tort », une chanson plus rare, nous dit Stéphanie Jovanovitch, sortie sur l'album Aline en 1965. Et puisqu'on dénonce les collègues, c'est Jean-Ray Laillère qui est à la réalisation et à la technique de cette émission. Nicole Fontana, notre attachée de production. Vous écoutez Dit Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h autour du cannabis, du THC, du chanvre, de la marijuana. Et nous sommes avec l'historienne spécialisée dans l'histoire des psychotropes, Zoé Dubus, et elle nous parle du 19e siècle qui est assez intéressant pour cette substance, le cannabis. Au 078 206 73 32, le cannabis est vous, première question. Deuxième question, quelles sont vos drogues à vous? Alors drogue dans le sens vraiment très 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 large. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a le message « c'était mieux avant », sûrement en réaction aux propos de notre historienne. Et puis, on a diffusé en début d'émission une création sonore, c'était de l'art, on est d'accord, de Jonas Sol, qui était censé vous faire ressentir les effets du THC, mais sans en prendre, juste par les oreilles. Et on a un commentaire, il a oublié les phases euphoriques. Émoticône rire, merci pour ce retour. Et puis un témoignage, ne voulant pas mourir idiote, j'ai essayé une fois un joint, est égal hyper malade. Peut-être à cause des deux verres de vin. Deuxième fois, pas de vin, rebelote. 6 heures de torboyau très élégante, assise sur la cuvette avec le seau à champagne entre les genoux. Émoticône vomi, émoticône popo. Le toubib a dit allergie. Peut-on y être allergique? Comme environ 10% de la population. Donc plus jamais essayer. Merci pour ce témoignage. Ça, c'est, j'avais jamais entendu. On peut être allergique à peu près à tout, il me semble. Donc pourquoi pas à ça? Effectivement, c'est une plante. Hein. Il y a des gens qui sont allergiques, je sais pas moi. Au fenouil, peut-être. Quelles sont vos drogues? Eh bien, c'est l'auditeur qui nous répond. Pour moi, c'est cannabis et chocolat. Clin d'œil, émoticône, miam. Et puis, on a un autre témoignage. À l'époque, les tisanes de chanvre soulageaient quand on souffrait de la sclérose en plaques. C'était des têtes de chanvre légalisées qu'on faisait infuser dans une tasse de lait. Je ne sais pas si ça se pratique encore, nous dit cet auditeur. Alors, par contre, ce qui se pratique, nous disait la médecin qui était là lundi et qui reviendra vendredi, c'est qu'on prescrit effectivement pour la sclérose en plaques. Certains médecins prescrivent, ça ferait des effets du THC, effectivement, mais alors sous forme évidemment légale, un médecin qui passe, un médicament qui passe par Suisse Medic, etc. Le THC en médecine aujourd'hui, c'est piste. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est plein d'espoir? On reverra ça vendredi avec Déborah Litsky-Aziza. Voilà, je cherchais le nom de notre experte médecin au HUG. Ça, ce sera vendredi. Pour l'instant, à 14h22, on retrouve Céline Auclin. Elle se pose beaucoup de questions, mais elle a beaucoup de réponses.
Parce que. Pourquoi? Pourquoi ma drogue à moi n'est pas une drogue? Parce que ça se discute. Parce que ma drogue à moi, c'est plus le chocolat que la ganja. Parce que ma drogue à moi implique quand même une grande dose de commerce discutable et souvent pas si équitable. Parce que le chocolat est, comme on le sait, une denrée qui ces dernières années s'est raréfiée. Le kilo a augmenté et son exploitation n'est pas sans dérive. Maltraitance et donc sans conséquence. Alors voilà pourquoi ma drogue à moi devient presque, elle aussi, un enjeu stupéfiant. Reste que, pour moi, ma drogue à moi n'en est pas une. Parce que j'ai l'impression de me faire du bien quand j'en mange. Et parce que noir, tout noir, le chocolat est presque sain. Ne dit-on pas qu'il est bourré de flavonoïdes? Ouais, à partir d'une teneur en cacao de 70%, et pas moins. Et parce qu'il serait ainsi un booster, stimulateur d'intelligence, de circulation sanguine et de fibres. Et il serait bon pour le cœur, au sens propre comme au figuré. Une peine à ce niveau-là, un carré de choc, je m'envoie. Pourquoi? Pourquoi ma drogue à moi n'en est pas une? Parce qu'elle s'achète officiellement en magasin, parce qu'elle s'offre et se vend, parce qu'elle est appréciée des tout petits comme des plus grands, parce qu'elle a un goût sans nul autre pareil. Parce qu'impossible à décrire par qui ne l'a jamais testée, parce que je mets au défi, ChatGPT, de pouvoir en parler aussi bien, aussi vrai que toutes celles et ceux qui en sont accros. Pourquoi? Parce qu'elle va bien au-delà de toute IA, intelligence artificielle, parce qu'elle est non seulement un appel des sens, mais constitue aussi une réponse aux sens. Elle est une expérience sensorielle, parce qu'elle est un plaisir presque charnel, un délice pour le palais, la langue et le gosier, sans oublier les bruits qu'elle fait quand on croque dedans, parce que fine ou extra fine, ou épaisse extra large, ma drogue à moi, attention, ça devient tendancieux, à qui le veut, elle n'a pas le même goût et n'offre pas la même sensation, et ne produit pas le même son à l'instant où on la brise à l'aide de nos incisives ou nos premières molaires. Ah, ma plaquette! Ma drogue à moi n'en est pas une parce qu'elle est plus un médicament, parce qu'elle m'envoie des trucs dans le cerveau, parce qu'elle est ma sérotonine, parce qu'elle a fait ses preuves, parce qu'une fois qu'on la connaît, qu'on sait qu'elle existe, difficile de l'oublier et de s'en passer. Pourquoi ma drogue à moi n'en est pas une? Parce que tout ce que je viens de décrire me prouve le contraire. Parce que ma drogue à moi, je ne la perçois pas comme une drogue et pourtant j'en parle comme de la drogue et j'en consomme et en abuse à la manière d'une drogue. Reste que pour moi, ma drogue à moi n'est pas une drogue.
Dans la quiétude de l'après-midi, dis pourquoi ?
Courbes sont mes idées, mes repères courbes. Si je cours après, je me perds. Rien n'est jamais comme on le pense, c'est sans importance. Courbes, les mots glissés sous mes gestes, tout semble m'échapper, tout m'oppresse. Il suffit un peu de patience.
De Mila avec le titre Courbe. Elle sera en concert le 25 mai pour la Nuit des Musées au musée Yéniche à Vevey en compagnie de Marc Aymon. C'est dans 3 jours, le 25 mai. Vous écoutez Dis Pourquoi, on est ensemble jusqu'à 15h autour de cette belle thématique. Pourquoi le cannabis? Pourquoi le haschich? Pourquoi le chanvre? Pourquoi cette plante nous accompagne? Pourquoi est-ce qu'on a le regard que nous avons sur les consommateurs de haschich? Et qu'est-ce qui se passe avec la médecine aujourd'hui et le THC? On est plutôt dans l'histoire aujourd'hui avec Zoé Dubus, on est même complètement dans l'histoire. Zoé Dubus, historienne spécialisée dans l'histoire des psychotropes. On nage en plein 19e siècle, on la retrouve dans quelques trentaines de secondes. Mais avant, vos messages au 078 206 73 32. Le cannabis et vous, comment ça se passe? Et sinon, quelles sont vos drogues dans tous les sens du terme? On a ce message. L'herbe détend les muscles. Merci pour ce témoignage. Et puis, ce témoignage, pour la sclérose en plaques, j'ai une prescription pour du Sativex. C'est du cannabis en spray, mais sans THC. Et c'est un auditeur. C'est un auditeur qui nous écrit assez souvent. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je dis une auditrice. Et à chaque fois, il me fait un petit clin d'œil. C'est un auditeur. Et puis, on reviendra donc sur le cannabis comme en prescription, les cannabinoïdes en prescription médicale. On reviendra sur ce thème précis vendredi avec Déborah Litsky. Aziza, médecin adjointe au HUG. D'autres messages, je suis triste. Je suis triste, j'ai fait des poutres dans 22 sortes d'essences différentes. Mais je n'ai jamais trouvé un tronc suffisamment grand de chanvre. Remarque, le tronc de cana est vide ou trop mou. Émoticône, je réfléchis, la main posée sur mon menton. C'est vraiment dommage, ce serait cool, une poutre en cana quand même. Émoticône pousse vers le haut. Émoticône, clin d'œil, langue qui sort, on est tout à fait d'accord. Et on salue comme d'habitude tous les faiseurs et faiseuses de poutres qui nous écoutent. I don't like the drugs, but the drugs like me. Une citation de Marilyn Manson. Merci. Et quelqu'un, comment dirais-je, est un peu lèche-botte, mais en même temps... C'est envers notre émission, donc ça nous fait plaisir. Moi, ma drogue, c'est Dis Pourquoi. Si j'ai pas mon dit pourquoi quotidien, je suis tellement addict que je me pose plein de questions, comme par exemple, dit pourquoi ça me fait planer en dehors du train-train quotidien. Bon voilà, bon, c'est gentil, c'est sûrement pas vrai, mais c'est gentil. On retrouve qui ? On l'a dit, on retrouve Zoé Dubus, historienne spécialisée dans l'histoire des psychotropes, et elle nous parle de ce fameux 19e siècle.
Oui, le 19e siècle, c'est très intéressant pour les psychotropes parce que ces substances vont accompagner vraiment l'émergence de l'industrialisation et du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'il y a de nouveaux rythmes de travail qui se mettent en place, qui n'existaient absolument pas dans les périodes précédentes, dans lesquelles la population va devoir consommer des produits stimulants le matin, donc par exemple le café qui rentre dans les pratiques, le thé, mais aussi étonnamment la feuille de coca, donc pour pouvoir être efficace au travail. Et puis ensuite, le soir, on va avoir besoin d'autres substances, par exemple de l'opium ou des premiers somnifères. Et le cannabis entre totalement en fait, dans ces pratiques-là. Donc à la fois performative, donc on prend des substances pour pouvoir bien travailler efficacement, mais aussi pour pouvoir s'amuser et faire la fête. Et là encore, les médecins participent vraiment à ce mouvement-là parce qu'ils diffusent dans la presse des conseils qu'on appellerait aujourd'hui de réduction des risques pour dire si vous voulez avoir une expérience avec le cannabis qui soit joyeuse, mettez-vous dans telle et telle condition. Si au contraire vous voulez avoir une expérience qui soit plus introspective, eh bien il faut mettre en place tel et tel autre élément. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'on n'est pas encore dans une période de condamnation de ces substances. Et au contraire, c'est vraiment un moment d'intérêt et de curiosité pour ces effets.
Mais vous dites que ça accompagne le capitalisme pourtant travailler beaucoup. Il me semble que c'était aussi la norme pour la majorité de la population. Si on va au Moyen-Âge Renaissance, les paysans avaient un jour de repos le dimanche et encore. Et sinon, ils travaillaient du soir au matin. C'est une vision faussée que j'ai.
Oui, tout à fait. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a du mal, en fait, à se représenter la gestion du temps avant le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est donc non seulement l'apparition de nouveaux rythmes de travail, mais aussi l'apparition des montres, par exemple, ou du matériel, des techniques qui permettent de mesurer le temps. Et ce qui va accélérer, en fait, l'expérience de vie des individus. Avant cette période-là, non seulement on a finalement très peu d'instruments pour mesurer le temps, mais surtout, le rythme des gens est différent. Et même à la campagne, il y a beaucoup de périodes de temps qui ne sont pas consacrées au travail. Les pays ans, par exemple, ben une fois qu'ils ont travaillé la terre, une fois qu'ils ont planté leurs légumes ou les plantes qu'ils veulent cultiver, et ben finalement, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, on va pouvoir, par exemple, tailler les arbres, on va refaire les clôtures, mais c'est des tâches qui, finalement, ne prennent pas l'ensemble de la journée. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un temps qui est beaucoup plus long, beaucoup plus ralenti et qui permet des périodes de repos qui n'existent plus à partir du 19e siècle.
Donc ça, vous avez en tant qu'historienne, il y a des sources, il y a des textes, des illustrations qui montrent vraiment ce changement de rythme.
Oui, alors il y a à la fois des travaux en histoire, par exemple l'historien Alain Corbin en France qui a travaillé un petit peu sur ces sujets-là, mais il y a aussi de manière intéressante des travaux en anthropologie, puisque jusqu'au début du XXe siècle, il y a beaucoup de populations humaines à travers le monde qui continuent à avoir ce rythme-là, en fait, qui n'est pas dicté par les contraintes capitalistes. Et de manière intéressante, il y a par exemple une étude qui a montré que dans différents peuples au début du XXe siècle, en moyenne, 30% du temps de ces populations était consacré à ne rien faire. Et ne rien faire, ça ne veut pas dire rêver ou réfléchir ou se reposer. C'était vraiment ne rien faire. Et si ça vous intéresse, je peux donner la référence de l'article pour que vous le mettiez en ligne, parce que c'est vraiment fascinant pour nous aujourd'hui occidentaux de découvrir ces rythmes de travail-là.
Won't you dance?
I Wanna Dance With Somebody, un titre de 1987, c'est le titre qui a rendu Whitney Houston célèbre, nous indique Stéphanie Jovanovic. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h autour de ce thème, le cannabis et vos messages au 078 206 73 32, vos témoignages, vos expériences, comme par exemple ce message, j'ai une maladie neuro à la colonne vertébrale, grâce au cannabis, entre parenthèses fumé, j'ai pu arrêter plusieurs médicaments dérivés de morphine, myorelaxants, etc. 8 pilules en moins. Alors ça, une fois de plus, Déborah Litsky-Aziza, on en parlait lundi. Effectivement, elle disait que chez des gens, ça peut soulager, mais qu'il existe des médicaments qui se sprayent, qui passent par Swissmedic, et que la combustion, ça reste mauvais pour la santé. Voilà, donc fumer, c'est pas terrible. Plutôt essayer de consulter un médecin. Mais après, tous les médecins ne sont pas ouverts sur les traitements à base de cannabinoïdes. Et ça, une fois de plus, on en parlera vendredi. Et puis cet autre témoignage, une tranche de vie, vous allez voir. En plus, c'est une anecdote personnelle récente. Mon épouse et moi-même sommes allés au Mexique il y a 2 semaines. À Tulum, précisément. Nous avons rencontré un couple latino qui m'a proposé de fumer du cannabis mexicain. Moi qui n'avais jamais fumé de ma vie de cannabis, j'ai donc essayé. Il y a des gens qui aiment vivre dangereusement. Hein. Petite parenthèse personnelle, vous êtes en vacances au Mexique, vous croisez des gens que vous connaissez pas, ils disent « Tiens, fume, c'est du mexicain, vous avez jamais fumé de votre vie, qu'est-ce que vous faites ?» Vous essayez. Bravo. Non, on dit bravo. Fin de parenthèse. 5 minutes plus tard, j'étais stone. J'ai eu des hallucinations violentes et je croyais que le couple latino voulait nous kidnapper. Émoticône mort de rire. Mon épouse a eu une peur bleue de tout ce que je lui racontais. Émoticône mort de rire. C'était vraiment pas drôle pour elle. Et je le regrette beaucoup de l'avoir fait. Une bonne douche et un bon sommeil. Le lendemain, je riais de mon expérience. Pas ma femme. Voilà, ça c'est pas mal. Bonne expérience. Ne faites pas ça. Et vous faites, mais enfin vous êtes des adultes. Oui, non, ce message on va pas le lire. Par contre, une chronique. Une chronique, grâce aux recherches de Nicole Fontana, nous explorons toute cette semaine des œuvres inspirées par le cannabis ou le hachis. Le Comte de Monte Cristo, lundi, oui, il y a du cannabis dedans. Hier, le film culte The Big Lebowski. Et aujourd'hui, non pas un morceau de musique, mais un sous-genre musical entier qui a été nommé en hommage au cannabis. Ce genre, ça s'appelle le stoner et ça peut sonner un peu comme ça. Voilà, le stoner, ça peut sonner comme ça. Stoner, c'est donc un genre musical. Il faut plutôt aimer la guitare, on est d'accord. Et stoner, ça vient de l'argot anglais ou américain, on ne sait pas, qui désigne une personne sous l'influence de la drogue, principalement du cannabis. Alors pourquoi est-ce qu'un sous-genre du rock entier s'appelle en hommage au cannabis? On vous l'explique. C'est un sous-genre né dans les années 90, aussi appelé rock du désert, en traduction française. Le nom de stoner viendrait d'une compilation sortie en 1997 par le label Roadrunner Records, compilation qui s'appelait Burn One Up Music for Stoners, qu'on pourrait traduire librement par Brûle-en un, musique pour droguer. Mais alors quel est ce genre musical et pourquoi a-t-il ce nom? Le stoner pourrait être représenté musicalement par un seul groupe, Kaios, groupe de rock américain de Californie, région désertique de Californie, c'est pour ça que ça s'appelle aussi du desert rock. Kaios qui sonne un peu comme ça. Évidemment, il faut aimer la guitare. Dans un article sur le site Loudwire, Chris Goss, producteur de Kaios, raconte que dans les années 80, le rock, le metal, c'est devenu trop, ça va trop vite, c'est grand guignolesque, il n'y a plus d'âme, et il tombe sur ce groupe Kaios qui s'inspire plus directement du son de certains groupes de la toute fin des années 60, comme Blue Cheer et leur reprise de Summertime's Blue, ou d'autres groupes comme Black Sabbath, et là peut-être qu'on voit le stoner, le lien avec le hashish, parce que Black Sabbath, par exemple, ont un titre qui s'appelle Sweet Leaf, donc douce feuille, et qui commence comme ça. 1970 quand même, hein. Ça n'a pas vieilli, ça a 54 ans, c'est beau. Dans les années 90, donc, il y a plusieurs groupes qui sont étiquetés stoner. C'est un genre musical, on vous le rappelle. Et si certains groupes comme Fu Manchu ne parlent pas de drogue, mais plutôt parlent de rouler vite sur une autoroute dans le désert avec des dés en mousse qui pendouillent au rétroviseur, d'autres groupes comme Sleep mettent le cannabis au slip avec deux E, comme dormir, hein. Le groupe s'appelle pas Sleep comme le slip de bain. Fin de parenthèse. Le groupe Sleep met le cannabis au centre de leur création artistique avec notamment un morceau de une heure dont les paroles évoquent une caravane biblico-futuriste à la recherche de cannabis dans un monde ressemblant un peu au monde du roman Dune de Frank Herbert. Un morceau qui dure 1h05 et que nous vous passerons en l'intégralité à la place de l'émission Drôle d'époque. Comme tous les sous-genres musicaux, donc voilà, le stoner, ça a donné de stoner doom, etc. Et encore aujourd'hui, il y a des groupes dont les noms évoquent le cannabis, le hashish, comme le groupe Godzilla, ouais, c'est un jeu de mots, Green Lung, poumon vert, Goblin Smoker, fumeur de gobelins, ou Bad Vision, ou le trône de la drogue, c'est malin. C'est des groupes aussi qui jouent ouvertement et publiquement sous l'influence du cannabis, et qui invitent même les spectateurs à faire de même. C'est choquant. Et notons que ce sous-genre musical compte nombre de groupes aux États-Unis, mais aussi en Europe, et que tous les groupes ne font pas référence au cannabis. Par exemple, il y a un groupe grec qui ne fait pas référence au cannabis.
Καλησπέρα, είμαστε Planet of Zeus.
Voilà, ils sont grecs. Il a dit bonsoir, nous sommes Planet of Zeus. Voilà, c'était donc chaque jour, on vous propose une œuvre inspirée du cannabis. Et aujourd'hui, c'était un sous-genre musical entier qui se fait appeler stoner. Là, on va retrouver Gaëtan Roussel. Je ne sais pas si c'est du stoner, voyons ça.
Toute totalité, toute totalité, toute totalité, toute totalité.
De mon amour, je te donne la totalité, mes arrivées, mes départs, la dualité.
De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure. De mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts, je te donne la totalité. Tous mes défauts, j'en ai pas.
Mes humeurs, tous mes envols, être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Total.
Gaëtan Roussel, donc, j'étais complètement absorbé dans la lecture du peut-être texte que je vais lire si on a le temps en fin d'émission. On lira peut-être du Baudelaire. C'était Ma Totalité avec un featuring de Majo. Et on pourquoi lire du Baudelaire aujourd'hui dans ce Dit Pourquoi sur le cannabis? Parce qu'avec Zoé Dubus, historienne spécialisée dans l'histoire des psychotropes, on est au 19e siècle. Et si elle nous a dit qu'au 19e siècle, le cannabis était expérimenté, le hashish dans les milieux médicaux et dans cette discipline qui était avant les psychiatres, hein, les aliénistes, on utilisait des psychotropes, et bien aussi dans le milieu artistique. On retrouve Zoé Dubus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours ce fameux Moreau de Tours, hein, qui est très présent au début du 19e siècle dans les milieux psychotropes, qui va inviter des intellectuels et des artistes à faire des soirées avec lui dans lesquelles on prend du cannabis. L'idée d'origine, c'est que Moreau de Tours se rend compte qu'en tant que... Alors, il n'est pas psychiatre parce que ça n'existe pas à cette époque. Il est aliéniste. Et donc, en tant qu'aliéniste, sa formation le restreint dans l'interprétation des effets du cannabis. Dans la volonté d'augmenter le vocabulaire à disposition pour pouvoir décrire l'expérience psychotrope, il va organiser des soirées qu'on appelle le Club des Hachichins, dans lesquelles donc, il invite Baudelaire, mais aussi par exemple Théophile Gautier, Alexandre Dumas, à venir consommer du cannabis avec lui. Donc à nouveau, le cannabis à cette époque est toujours mangé, donc produit des effets extrêmement puissants. Et on organise différentes pièces, donc ça se passe dans l'hôtel Pimodan à Paris. On organise différentes pièces avec des ambiances différentes, avec de la musique différente. Et donc, c'est des soirées festives, mais qui visent aussi à ce que, ensuite, les intellectuels et les artistes fassent des comptes rendus de ces expériences et qui sont, par exemple, publiés dans la presse de l'époque. Et Baudelaire va écrire Les Paradis artificiels pour décrire son expérience du cannabis, mais ensuite aussi de l'opium.
Parce qu'ils prennent, pour bien vous comprendre, ils ne prennent pas que du cannabis, ils essayent différentes substances. Il y a un peu toutes les substances ont la même image à ce moment-là du 19e à Paris.
Oui, il n'y a pas de distinction entre les produits et il n'y a pas non plus cette représentation de dangerosité ou de stigmatisation des usages.
Vous avez dit club des hachichins. Ça c'est intéressant. Je vous ai entendu l'expliquer lors d'une autre interview que j'ai écoutée pour préparer cet entretien. Il y a cette fameuse étymologie entre hachiche et assassin. Redites-nous si c'est véridique ou pas.
Oui, alors au même moment, donc au début du 19e siècle, même si l'usage des psychotropes en général est tout à fait favorisé par à la fois les médecins, mais en général la population, il y a aussi certaines personnes qui commencent à en condamner l'usage. Et une manière de condamner l'usage, c'est de passer par l'étymologie, en particulier pour le cannabis. Donc c'est un professeur du Collège de France qui s'appelle Sylvestre de Sacy qui va expliquer que au XIe siècle, dans le nord de la Perse, il y avait une secte qui était dirigée par un homme qu'on appelait le vieux de la montagne. Et ce vieux de la montagne qui droguait au cannabis ses disciples pour que ça devienne des machines à tuer. Et donc que le terme assassin vient de cette histoire-là. Donc c'est quelque chose qui va être très bien accepté à partir du 19e siècle, qui va se diffuser et encore aujourd'hui on trouve des travaux qui expliquent l'origine du mot assassin par cette histoire-là. Mais en fait, dès les années 60, 1960 cette fois, il y a des linguistes et des historiens qui vont déconstruire cette étymologie et expliquer que ça n'a absolument rien à voir. Le terme assassin ne vient pas de hachichin et pourtant c'est un mythe qui est vraiment encore très présent.
Heureuse des bourgeois, Gavril Beaujeanne, où que des sombres gènes, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé, 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée, et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né, je meurs près de ma mère, et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honte et le nu de souhait, impossible elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant son rameur sur un fleuve inconnu. sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont donc qu'un besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant. Les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrivent, planent et passent. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, pas de sumons et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait d'éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un lait leur rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeune voix édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra de à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeune voix édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra de à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Quand Stéphane Eicher reprend du Brassens, ça donne Les Oiseaux de Passage, Stéphane Eicher accompagné des Tarafes de Haïdouk, un titre sorti en 2006. Vous écoutez Dis pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h autour de ce thème, le haschich, le cannabis, le chanvre, le THC, le CBD. Pourquoi dans l'histoire, pourquoi sur nos petits organismes, on répond à toutes ces questions cette semaine. Et notre question du jour, 078 206 73 32, le haschich et vous. Et la question du jour, quelle est votre drogue à vous, dans tous les sens du terme? On a reçu ce message constructif, mais plein de clins d'œil, alors je vous le lis, m'a fait plaisir. Ma drogue à moi, c'est l'huile de loutre à fumer. Émoticône loutre. Une fois, j'en ai trop pris et j'ai eu l'impression d'être à chafouze. Après un moment, les effets se sont dissipés et j'ai alors réalisé que j'étais vraiment à chafouze. Gros bad trip. Émoticône tourbillon à la place des yeux. Si vous avez écouté attentivement la dernière intervention de Zoé Dubus, historienne spécialisée dans l'histoire des psychotropes, bien vous avez appris, entendu ou réappris qu'au 19e siècle à Paris, il y a un aliéniste, Moreau de Tours, qui invitait toutes sortes de gens, dont des poètes, des écrivains, écrivaines, à venir essayer différentes drogues, dont le haschich, pour écrire ensuite dessus. Devinez qui y avait ?
Les grands classiques de la littérature de l'humanité libre de droit pour des raisons économiques avant tout. Dit par Lucas Torrent.
Eh bien, il y avait Charles Baudelaire, évidemment. Charles Baudelaire était toutes les fêtes. Enfin, on l'imagine de toutes les fêtes, mais un peu cassant l'ambiance. C'est comme ça qu'on imagine Baudelaire. Il a écrit donc Les Paradis artificiel dans Petit Poème en prose, Les Paradis artificiels, sorti en 1869. Il aime pas du tout le haschich, Baudelaire. Vous allez l'entendre. On rappelle qu'on le mangeait à l'époque, c'était pas, un truc à se rendre malade. Lisons donc ce que dit Charles Baudelaire sur le haschich. Il y a généralement dans l'ivresse du haschich nous dit Charles. Trois phases assez faciles à distinguer, et ce n'est pas une chose peu curieuse à observer chez les novices que les premiers symptômes de la première phase. Vous avez entendu parler vaguement des merveilleux effets du haschich. Votre imagination a préconçu une idée particulière, quelque chose comme un idéal d'ivresse. Il vous tarde de savoir si la réalité sera décidément à la hauteur de votre espérance. Cela suffit pour vous jeter dès le commencement dans un état anxieux, assez favorable à l'humeur conquérante et envahissante du poison. La plupart des novices au premier degré d'initiation se plaignent de la lenteur des effets. Ils les attendent avec une impatience puérile. Et la drogue n'agissant pas assez vite à leur gré, ils se livrent à des fanfaronnades d'incrédulité qui sont fort réjouissantes pour les vieux initiés qui savent comment le haschich se gouverne. Les premières atteintes, comme les symptômes d'un orage longtemps indécis, apparaissent et se multiplient au sein même de cette incrédulité. C'est d'abord une certaine hilarité, saugrenue, irrésistible qui s'empare de vous. Des accès de gaieté, non motivés, dont vous êtes presque honteux, se reproduisent fréquemment et coupent des intervalles de stupeur pendant lesquels vous cherchez en vain à vous recueillir. Il écrit bien ce Baudelaire. Une dernière phrase. « Les mots les plus simples, les idées les plus triviales prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Vous vous étonnez même de les avoir jusqu'à présent trouvées si simples. » Bonjour Pascaline Sordet.
Mais salut.
Drôle d'époque, qui vous recevez aujourd'hui?
On reçoit Isabelle Cornat qui a écrit ce très beau livre, qui elle aussi écrit très bien, comme Baudelaire.
Comme
La
Baudelaire
nuit, pas.
On verra ce qu'elle en dit.
Pas de pression.
Non, exactement. Est-ce qu'elle écrit des poèmes hyper sombres?
Non, mais c'est de la prose poétique fragmentaire, comme ça, sur Moscou, sur la Russie. Donc on va parler à la fois littérature et un petit peu de géopolitique.
Et vous serez avec Mélanie Croubalian.
Exactement, pas d'Émilie cette semaine, mais on l'embrasse.
Exactement, aussi. Ce sera tout de suite après les informations, puisqu'on arrive bon an, mal an, à l'heure pile. Vous écoutez RTS La Première et il est tout à fait 15h.